Guerre et paix. Première partie, chapitre 3, scène 7. Le 12 novembre, l'armée de Kutuzov, campée aux alentours d'Olmutz, se préparait à être passée en revue par les deux empereurs de Russie et d'Autriche. La garde, qui venait d'arriver, bivouaquait à 15 verstes de là, pour paraître le lendemain matin à 10 heures sur le camp de manœuvre. Nicolas Rostov avait reçu ce même jour un billet de Boris. Boris lui annonçait que le régiment d'Ismaïlovski s'arrêtait à quelques verstes et qu'il l'attendait pour lui remettre la lettre et l'argent. La nécessité de ce dernier renvoi se faisait vivement sentir, car après la campagne et pendant le séjour à Olmutz, Nicolas avait été exposé à toutes les tentations imaginables, grâce aux cantines bien fournies des vivandiers et grâce aussi aux juifs autrichiens qui pullulaient dans le camp. Ce n'était, dans le régiment de Pavlograd, que banquet sur banquet pour fêter les récompenses reçues, puis des courses sans fin à la ville, où une certaine Caroline la Hongroise avait ouvert un restaurant dont le service était fait par des femmes. Rostov avait fêté tout dernièrement son avancement, avait acheté Bédouin, le cheval de Denisov, et se trouvait endetté jusqu'au cou envers ses camarades et le vivandier. Après avoir dîné avec des amis, il se mit en quête de son camarade d'enfance dans le bivouac de la garde. Il n'avait pas encore eu le temps de s'équiper, il portait toujours sa veste râpée de Junker, ornée de la croix de soldat, un pantalon à fond de cuir et le ceinturon à l'épée d'officier. Son cheval était un cheval cosaque, acheté d'occasion, et son shako bosselé était posé de côté, d'un air tapageur. En s'approchant du régiment d'Ismaïlovski, il ne pensait, dans sa joie, qu'à émerveiller Boris et ses camarades de la garde par son air de hussard aguerri qui n'en est pas à sa première campagne. La garde avait exécuté une promenade plutôt qu'une marche, en faisant parade de sa belle tenue et de son élégance. Les havresacs étaient transportés dans des charrettes, et, à chacune de leurs courtes étapes, les officiers trouvaient des dîners excellents préparés par les autorités de l'endroit. Les régiments entraient dans les villes et en sortaient, musique en tête, et pendant toute la marche. Ce dont la garde était très fière, les soldats, obéissant à l'ordre du grand-duc, marchaient au pas et les officiers suivaient à leur rang. Depuis leur départ, Boris n'avait pas quitté Berg, qui était devenu chef de compagnie et qui, par son exactitude au service, avait su gagner la confiance de ses chefs et arranger fort avantageusement ses petites affaires. Boris avait eu soin de faire bon nombre de connaissances qui pouvait lui devenir très utile dans un moment donné, entre autres celle du prince André Bolkonski, à qui il avait apporté une lettre de Pierre, et il espérait être attaché, par sa protection, à l'état-major du général en chef. Berg et Boris, tous deux tirés à quatre épingles et complètement reposés de leur dernière étape, jouaient aux échecs sur une table ronde dans le logement propre et soigné qui leur avait été assigné. Le long tuyau de la pipe de Berg se prélassait entre ses jambes, pendant que Boris, de ses blanches mains, mettait les pièces en pile, sans perdre de vue la figure de son partenaire, absorbé comme toujours par son occupation du moment.
« Eh bien, comment sortirez-vous ? Nous allons voir. »
La porte s'ouvrit à ce moment.
« Le voilà enfin !»
s'écria Rostov.
« Ah, et Berg est aussi là !» « Petits enfants, allez faire dodo !»
ajouta-t-il en fredonnant une chanson de sa vieille bonne qui avait toujours le don de les faire pouffer de rire, Boris et lui.
« Dieu de Dieu, que tu es changé !»
Boris se leva pour aller à la rencontre de son ami, sans oublier toutefois d'arrêter dans leur chute les différentes pièces du jeu. Il allait l'embrasser lorsque Rostov fit un mouvement de côté. Avec cet instinct naturel à la jeunesse, qui ne songe qu'à s'écarter des sentiers battus, Rostov cherchait constamment à exprimer ses sentiments d'une façon neuve et originale, et à ne se conformer en rien aux habitudes reçues. Il n'avait d'autre désir que de faire quelque chose d'extraordinaire, ne fût-ce que de pincer son ami, et surtout d'éviter l'accolade habituelle. Boris, au contraire, déposa tout tranquillement et affectueusement sur ses joues les trois baisers de rigueur. 6 mois à peine s'étaient écoulés depuis leur séparation, et, en se retrouvant ainsi au moment où ils faisaient leur premier pas dans la vie, ils furent frappés de l'énorme changement qui était survenu en eux, et qui résultait évidemment du milieu dans lequel ils s'étaient développés.
« Ah, vous autres maudits frotteurs de parquet, qui rentrez d'une promenade coquets et pimpants, tandis que nous, pauvres pêcheurs de l'armée... »
disait Rostov, qui, avec sa jeune voix de baryton et ses mouvements accentués, cherchait à se donner la désinvolture d'un militaire de l'armée, par opposition avec l'élégance de la garde, en montrant son pantalon couvert de boue. L'hôtesse allemande passa en ce moment la tête par la porte.
« Est-elle jolie ?»
dit Rostov en clignant de l'œil.
« Ne crie donc pas si fort, tu les effrayes !»
lui dit Boris.
« Sais-tu bien que je ne t'attendais pas si tôt, car ce n'est qu'hier soir que j'ai remis mon billet à Bolkonski, un aide-de-camp que je connais. Je n'espérais pas qu'il te le ferait parvenir aussi vite. Eh bien, comment vas-tu ? Tu as reçu le baptême du feu ?»
Rostov, sans répondre, joua avec la croix de soldat de Saint-Georges qui était suspendue au brandebourg de son uniforme, et, indiquant son bras en écharpe,
« Comme tu vois. Ah ah !»
dit Boris en souriant.
« Nous aussi, mon cher, nous avons fait une campagne charmante. Son Altesse impériale suivait le régiment et nous avions toutes nos aises. En Pologne, des réceptions, des dîners, des bals à n'en plus finir. Le Césarévitch est très bienveillant pour tous les officiers. »
Et ils se racontèrent mutuellement toutes les différentes phases de leur existence. L'un, la vie du bivouac, l'autre, les avantages de sa position dans la garde avec de hautes protections.
« Oh, la garde !»
dit Rostov.
« Donne-moi du vin. »
Boris fit une grimace, mais, tirant sa bourse de dessous ses oreillers bien blancs, il fit apporter du vin.
« À propos, voici ton argent et la lettre. »
Rostov jeta l'argent sur le canapé et saisit la lettre en mettant ses deux coudes sur la table pour la lire commodément. La présence de Berg le gênait. Se sentant regardé fixement par lui, il se fit aussitôt un écran de sa lettre.
« On ne vous a pas ménagé l'argent, »
dit Berg en contemplant le gros sac enfoncé dans le canapé.
« Et nous autres, nous tirons le diable par la queue avec notre solde. Écoutez, mon cher, la première fois que vous recevrez une lettre de chez vous et que vous aurez 1000 questions à faire à votre ami, je vous assure que je m'en irai tout de suite pour vous laisser toute liberté. Ainsi donc, disparaissez bien vite et allez-vous-en au diable !»
s'écria-t-il en le faisant pivoter et en le regardant amicalement pour adoucir la vivacité trop franche de ses paroles.
« Ne m'en veuillez pas, n'est-ce pas? Je vous traite en vieille connaissance. »« Mais je vous en prie, comte, je le comprends parfaitement, »
dit Berg de sa voix enrouée.
« Allez chez les maîtres de la maison, ils vous ont invité, »
ajouta Boris. Berg passa une redingote sans tache, releva ses cheveux par devant à la façon de l'empereur Alexandre et, convaincu de l'effet irrésistible produit par sa toilette, il sortit avec un sourire de satisfaction sur les lèvres.
« Ah, quel animal je suis !»
dit Rostov en lisant sa lettre.
« Pourquoi ? Un véritable animal de ne pas leur avoir écrit une seconde fois. Ils se sont tellement effrayés. Eh bien, as-tu envoyé Gavrilo chercher du vin ? Bravo, nous allons nous en donner !»
Parmi les missives de ses parents, il y avait une lettre de recommandation pour le prince Bagration. La vieille comtesse, d'après le conseil d'Anna Mikhailovna, l'avait obtenue d'une de ses connaissances, et elle demandait à son fils de la porter ou plutôt à son destinataire, afin d'en tirer profit.
« Quelle folie ! J'en ai bien besoin !»
dit Rostov en jetant la lettre sur la table.
« Pourquoi l'as-tu jetée ? C'est une lettre de recommandation, je m'en moque pas mal. »« Comment tu t'en moques pas mal ? Mais elle te sera nécessaire. »« Je n'ai besoin de rien, ce n'est pas moi qui irai mendier une place d'aide de camp. » « Pourquoi donc ? C'est un service de domestique. »« Ah, tu es toujours le même à ce que je vois, »
dit Boris.
« Et toi toujours le même diplomate. Mais il ne s'agit pas de cela. Que deviens-tu ?
Dit Rostov.
Comme tu le vois, jusqu'à présent tout va bien, mais je t'avoue que mon but est d'être attaché comme aide de camp et de ne pas rester dans les rangs.
Pourquoi cela ?
Parce qu'une fois qu'on est entré dans la carrière militaire, il faut tâcher de la faire aussi brillante que possible.
Ah, c'est comme cela.
Et il attacha des regards fixes sur son ami, en s'efforçant, mais en vain, de pénétrer le fond de sa pensée. Le vieux Gavrilo entra avec le vin demandé.
« Il faudrait t'envoyer chercher Alphonse Karlovitch. Il boirait avec toi à ma place. »«
Si tu veux, comment est-il ce Tudesque ?»
demanda Rostov d'un air méprisant.
« C'est un excellent homme, très honnête et très agréable. »
Rostov examina de nouveau Boris et soupira. Berg, une fois revenu, la conversation des trois officiers devint plus vive. Autour de la bouteille de vin. Ceux de la garde mettaient Rostov au courant des plaisirs qu'ils rencontraient sur leur marche, des réceptions qu'on leur avait faites en Russie, en Pologne et à l'étranger. Ils citaient les mots et les anecdotes de leur chef, le grand-duc, à propos de sa bonté et de la violence de son caractère. Berg, qui, selon son habitude, se taisait toujours lorsque le sujet ne le touchait pas directement, raconta complaisamment comment, en Galicie, il avait eu l'honneur de causer avec son Altesse impériale. Comment le grand-duc s'était plaint à lui de l'irrégularité de leur marche. Et comment, s'approchant un jour en colère de la compagnie, il en avait appelé le chef Arnaut. C'était l'expression favorite du Césarévitch dans ses excès d'emportement.
« Vous ne me croirez pas, comte, mais j'étais si sûr de mon bon droit que je n'éprouvais pas la moindre frayeur. » Sans me vanter, je vous avouerai que je connais aussi bien les ordres du jour et nos règlements que notre Père qui êtes aux cieux. Aussi n'y a-t-il jamais de faute de discipline à reprocher à ma compagnie, et je comparus devant lui avec une conscience tranquille.
À ces mots, le narrateur se leva pour montrer comment il s'était avancé, en faisant le salut militaire. Il aurait été difficile de voir une figure témoignant à la fois plus de respect et de contentement de soi-même.
« Il écume,
poursuivit-il,
m'envoie à tous les diables et m'accable d'Arnaut et de Sibérie. Je me garde bien de répondre. « Es-tu muet ? S'écrie-t-il. Je continue à me taire. Eh bien, comte, qu'en dites-vous ? Le lendemain, dans l'ordre du jour, pas un mot à propos de cette scène. Voilà ce que c'est que de ne pas perdre la tête. Oui, comte, c'est ainsi. »
répéta-t-il en allumant sa pipe et en lançant en l'air des anneaux de fumée.
« Je vous en félicite, »
dit Rostov. Mais Boris, devinant ses intentions moqueuses à l'endroit de Berg, détourna adroitement la conversation en priant son ami de leur dire quand et comment il avait été blessé. Rien ne pouvait être plus agréable à Rostov, qui commença son récit. S'animant de plus en plus, il se mit à raconter l'affaire de Schöngraben, non pas comme elle s'était passée, mais comme il aurait souhaité qu'elle se fût passée, c'est-à-dire embellie par sa féconde imagination. Rostov aimait sans doute la vérité et tenait à s'y confirmer. Cependant, il s'en éloigna malgré lui, imperceptiblement. Un exposé exact et prosaïque aurait été mal reçu par ses camarades, qui, ayant, comme lui, entendu plus d'une fois décrire des batailles, et s'en étant fait une idée précise, n'auraient ajouté aucune fois à ses paroles, et peut-être même l'auraient accusé de ne pas avoir saisi l'ensemble de ce qui s'était passé sous ses yeux. Comment leur raconter tout simplement qu'il était parti au galop, que, tombé de cheval, il s'était foulé le poignet et enfui à toutes jambes devant un Français? Se borner ainsi à la pure vérité aurait demandé un effort de sa part. Lâchant la bride à sa fantaisie, il leur narra comment, au milieu du feu, une folle ardeur s'était emparée de lui. Il avait tout oublié, s'était précipité comme dans la tempête sur un carré, et sabrant de droite et de gauche, comment enfin il était tombé d'épuisement, etc., etc.
« Tu ne peux te figurer, »
ajouta-t-il,
l'étrange et terrible fureur qui s'empare de vous pendant la mêlée. »
Comme il prononçait cette belle péroraison, le prince Bolkonski entra dans la chambre. Le prince André, qui était flatté de voir les jeunes gens s'adresser à lui, aimait à les protéger. Boris lui avait plu, et il ne demandait pas mieux que de lui rendre service. Envoyé chez le Césarévitch par Koutouzov avec des papiers, il était venu en passant. À la vue du hussard d'armée, échauffé par le récit de ses exploits, il ne pouvait souffrir les individus de cette espèce. Il fronça les sourcils, sourit affectueusement à Boris et, s'inclinant légèrement, s'assit sur le canapé. Rien ne pouvait lui être plus désagréable que de tomber dans une société déplaisante pour lui. Rostov, devinant sa pensée, rougit jusqu'au blanc des yeux. Malgré son indifférence et son dédain pour l'opinion de ces messieurs de l'état-major, il se sentit gêné par le ton cassant et moqueur du prince André. Remarquant aussi que Boris semblait avoir honte de lui, il finit par se taire. Ce dernier demanda s'il y avait des nouvelles et si l'on pouvait, sans indiscrétion, connaître les dispositions futures.
« On va probablement marcher en avant, »
dit Bolkonski, qui tenait à ne pas se compromettre devant des étrangers. Berg profita de l'occasion pour s'informer avec sa politesse habituelle si la ration de fourrage ne serait pas doublée pour les chefs de compagnie de l'armée. Le prince André lui répondit, avec un sourire, qu'il n'était pas juge de questions d'état aussi graves.
« J'ai un mot à vous dire concernant votre affaire, »
dit-il à Boris.
« Mais nous en causerons plus tard. Venez chez moi après la revue, nous ferons tout ce qu'il sera possible de faire. »
Et, s'adressant à Rostov, dont il ne semblait pas remarquer l'air confus et passablement irrité,
« Vous racontiez l'affaire de Schöngraben. Vous étiez là ?»«
J'étais là, »
répondit Rostov d'un ton agressif. Bolkonski, trouvant l'occasion toute naturelle de s'amuser de sa mauvaise humeur, lui dit
« Oui, on invente pas mal d'histoires sur cet engagement.
Oui, oui, on invente des histoires, »
dit Rostov en jetant tour à tour sur Boris et sur Bolkonski un regard devenu furieux.
« Oui, il y a beaucoup d'histoires, mais nos relations, les relations de ceux qui ont été exposés au feu de l'ennemi, celles-là ont du poids, et un poids d'une bien autre valeur que celle de ces élégants de l'état-major, qui reçoivent des récompenses sans rien faire. Selon vous, je suis de cela. »
reprit avec sang-froid et en souriant doucement le prince André. Un singulier mélange d'impatience et de respect pour le calme du maintien de Bolkonski agitait Rostov.
« Je ne dis pas cela pour vous, je ne vous connais pas, et je n'ai pas, je l'avoue, le désir de vous connaître davantage. Je le dis pour tous ceux des états-majors en général.
« Et moi ?»
dit le prince André, en l'interrompant d'une voix mesurée et tranquille.
« Je vois que vous voulez m'offenser, ce qui serait par trop facile si vous manquiez de respect à vous-même. Mais vous reconnaîtrez sans doute aussi que l'heure et le lieu sont mal choisis pour l'essayer. Nous sommes tous à la veille d'un duel sérieux et important, et ce n'est pas la faute de Droubetskoï, votre ami d'enfance, si ma figure a le malheur de vous déplaire. Du reste,
ajouta-t-il en se levant,
« vous connaissez mon nom et vous savez où me trouver. N'oubliez pas que je ne me considère pas le moins du monde comme offensé, et comme je suis plus âgé que vous, je me permets de vous conseiller de ne donner aucune suite à votre mauvaise humeur. Ainsi donc, Boris, à vendredi après la revue, je vous attendrai. »
Et le prince André sortit en les saluant. Rostov, ahuri, ne retrouva pas son aplomb. Il s'en voulait mortellement de n'avoir rien trouvé à répondre. Et, s'étant fait amener son cheval, il prit congé de Boris assez sèchement.
Fallait-il aller provoquer cette aide de camp poseur ou laisser tomber l'affaire dans l'eau?
Cette question le tourmenta tout au long de la route. Tantôt, il se représentait le plaisir qu'il éprouverait à voir la frayeur de ce petit homme orgueilleux. Tantôt, il se surprenait avec étonnement à désirer, avec une ardeur qu'il n'avait jamais ressentie, l'amitié de cet aide de camp qu'il détestait.